du texte que nous avons lu dimanche dernier. Peut-être pas, hein? Alors on va vous rafraîchir la mémoire. C'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 14. Première épître de Pierre, chapitre 1er et le verset 14. Voilà ce que nous dit l'apôtre, bien sûr inspiré par le Seigneur. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Voilà, nous avons vu très rapidement un petit rappel la dernière fois que d'abord la sainteté résulte de notre nouvelle position en Christ. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'en Jésus nous avons été sanctifiés une fois pour toutes et qu'il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà, nous avons été arrachés de ce monde et maintenant nous sommes mis à part, voués, destinés au Seigneur, à son service, à sa gloire, mais à cette sainteté qui résulte de notre nouvelle position en Christ, il faut joindre la sainteté pratique et progressive. L'apôtre Paul écrira dans les Corinthiens, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant, c'est-à-dire en menant à bonne fin notre sanctification. La sainteté, c'est aussi une consécration. Isaïe, le prophète, quand Dieu s'est révélé à lui, il a dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Isaïe a répondu, me voici, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous tous, que nous nous offrions au Seigneur. Et puis, bien sûr, il y aura la sainteté ultime lorsque nous entrerons dans le royaume des cieux. D'ailleurs, c'est le texte qui a été lu ce matin, où nous serons rendus semblables à lui. Voilà. Alors, revenons sur cette affaire de sainteté pratique et progressive. Voilà, nous lisons ce texte. Puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. La lecture de ce verset, on comprend qu'il s'agit là d'une injonction du Seigneur, n'est-ce pas ? D'une exigence absolue de sa part. Alors, on pourrait être terriblement impressionné par une telle déclaration, une telle exigence de la part du Seigneur. Soyez saints dans toute votre conduite. Et la question qui nous vient sur les lèvres, c'est celle-ci. Mais comment puis-je parvenir à devenir saint? Comment vivre déjà actuellement une vie spirituelle de qualité, une vie sainte qui soit vraiment, mais vraiment à la gloire du Seigneur? Comment sortir de mes misères, de ce que j'appelle trop facilement mes défauts, mes lacunes, mes faiblesses qui n'en sont pas? Appelons les choses par son nom, leur nom, qui sont des péchés qui déshonorent le Seigneur. Comment m'extraire de cette misère, de cette gangue charnelle là qui me colle à la peau? Comment bien entrer dans une nouvelle dimension? Un texte nous dit que celui qui nous a appelés est saint. Voilà. La sainteté que le Seigneur exige de notre part trouve sa source, son origine dans ce que Dieu est. La bonne nouvelle, c'est que celui qui est saint, c'est celui qui sanctifie. Alléluia. Celui qui est saint, notre Dieu, a la capacité, le pouvoir de nous rendre saints. De nous rendre saints. Ainsi, voyez-vous, la sainteté dont il est question ici est à la fois une exigence, certes, mais c'est aussi une promesse. Amen. C'est aussi une promesse. Je reviens sur ce texte que j'ai mentionné rapidement dans Ésaïe chapitre 6. Voilà, c'est certainement alors qu'il était très jeune qu'Ésaïe a eu cette vision et il déclare, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et autour de ce trône de la majesté divine, les, les séraphins, des créatures célestes, n'est-ce pas, virevoltées, se répondant l'une à l'autre, « Saint, 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 et l'Éternel des armées. » Toute la terre est pleine de sa gloire. Voyez-vous, la sainteté, c'est l'élément central de la personnalité divine. C'est l'élément central de son caractère. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous signifier lorsqu'elle déclare que Dieu est saint? C'est-à-dire qu'il est d'une pureté morale absolue. Le mal, aucune forme ne l'a jamais atteint. Le prophète Habacuc, dans le chapitre 1er, verset 13 de son livre, dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Jésus lui-même est le saint par excellence, ce qui souligne sa divinité. L'apôtre Pierre prêchera l'évangile dans Acte 2 et il dira à ses auditeurs, vous avez crucifié, vous avez renié le saint et le juste. Quant au Saint-Esprit, eh bien dans le mot Saint-Esprit, il y a une mention évidemment de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est une perfection morale sans faille, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, concevoir ou comprendre. Et il résulte de ce fait, la sainteté de Dieu, que Dieu ne peut pas accepter, ne peut pas supporter, ne peut pas tolérer le péché. Et il finira, le péché, par le châtier avec la plus extrême rigueur. Sa justice, vous voyez, la parole de Dieu, elle parle de la colère de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la colère de Dieu? Ce n'est pas une explosion incontrôlée de violence ou de rage. Non, la colère de Dieu, eh bien, c'est la manifestation de son indignation face au péché. C'est la réaction de son indignation face au péché, le péché qui est un outrage fait à la gloire du Seigneur, qui est une injure envers sa sainteté. Dieu est saint. Il est immensément saint. Cependant, ce Dieu saint, je viens de le dire tout à l'heure, veut nous rendre saints. Et il veut rendre saints ceux qui lui appartiennent, qui sont ses enfants, qu'il a adoptés par Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour eux. Quand nous nous convertissons, qu'est-ce qui se passe? Oh, il se passe beaucoup de choses. Et je n'ai pas le temps de développer le thème de la réalité de tout ce qu'implique la conversion. Mais l'Écriture nous dit, entre autres, que quand nous nous convertissons, nous recevons une nature nouvelle. Voilà, quand je suis venu au monde, mes parents m'ont communiqué une nature humaine. Et cette nature humaine, par définition, depuis le péché d'Adam et Ève, mes arrière-arrière-arrière-grands-parents, elle est marquée, elle est vouée au péché. La parole de Dieu parle de la mauvaise ou de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. C'est un triste héritage. Je ne suis pas responsable des fautes de mes prédécesseurs. Je ne suis pas coupable de la faute d'Adam, mais en péchant, Adam a transmis à la race humaine tout entière ce germe, ce virus du péché, cette nature mauvaise. Voilà, c'est ma nature. Un enfant, quand il vient au monde, il est déjà comme ça. Il n'a pas pu encore exprimer la réalité de cette nature humaine et charnelle, puisqu'il est encore peut-être un nouveau-né, mais c'est inscrit, je dirais, dans ses gènes. Vous voyez? Et puis au fur et à mesure que nous grandissons, bien, ça se développe, ça ne fait que prendre de l'ampleur. Mais quand nous nous convertissons, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que Dieu nous communique sa nature. L'ancienne nature, elle est encore là. Il faut la maîtriser par la grâce de Dieu. Mais il nous donne déjà une nature nouvelle. La deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, nous dit que nous avons été rendus participants de la nature divine. En plus de cette nature humaine que j'ai reçue de la part de Dieu, quand je me suis converti, j'ai reçu une nouvelle nature. La nature divine, rendu participant de la nature divine. Ça signifie que Dieu se propose, nous rendant participants de sa nature divine, il se propose de nous faire participer à sa sainteté. C'est pourquoi il est écrit, nous venons de le lire, vous serez saints car je suis saint. C'est une exigence. C'est ce que Dieu ordonne, mon frère, ma sœur, pour toi, pour moi. Et c'est en même temps une promesse. Comme si Dieu disait, parce que je suis saint, je vais vous rendre saint. Vous croyez ça? Ah non, 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 Seigneur, je suis trop mauvais. Il y a en moi trop de défauts, trop de misère, trop d'incapacité pour que j'y parvienne. Non, non, ne vous enfermez pas dans ce raisonnement. Et même si trop souvent vous constatez ou je constate qu'encore notre nature charnelle nous joue des tours, croyez, croyons, et que je crois que par la grâce de Dieu, c'est possible de sortir d'une vie chrétienne médiocre et de piètre qualité qui déshonore le Seigneur pour entrer dans une nouvelle dimension qui glorifie Dieu. Alléluia! Dieu le veut. Amen. Alors, quels sont les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour nous permettre de mener une vie sainte? Parce que Dieu ne fait pas tout, en quelque sorte, comprenez le sens dans lequel j'essaie de le dire, Dieu met entre nos mains des outils, si je puis dire, pour nous permettre, par sa grâce, d'entrer dans cette vie de sainteté authentique et véritable. Et il y a toute une panoplie d'outils, de moyens de grâce que Dieu a mis à notre disposition pour nous permettre de mener une vie sainte. Premier moyen, nous l'avons là devant nous ce matin, c'est la parole de Dieu. Rappelez-vous, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, il y a cette fameuse prière de Jésus, on appelle ça la prière sacerdotale, la dernière prière qu'il a formulée avant d'aller à la croix. Et là, il prie pour ses disciples bien-aimés, et notamment, Jean chapitre 17, verset 17, il dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et la parole de Dieu, c'est le premier élément que Dieu va utiliser pour travailler en nous afin de réaliser cette sainteté dont nous sommes en train de parler ce matin. À ce verset que je viens de citer dans l'évangile de Jean, je voudrais ajouter ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Écoutez ça. La parole de Dieu est vivante. Amen. Et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Parole de Dieu, elle est claire, elle stimule notre conscience. Elle révèle le péché. Vous voyez ? Le prophète Nathan est venu vers David après qu'il ait péché pour lui dire... Eh bien, tu es cet homme-là, voilà le genre de personnage que tu es. Et j'espère, enfin, je pense, que ça vous est arrivé, à vous comme à moi, ou parfois, à la lecture d'un passage, d'un seul verset, parfois des Écritures, le Saint-Esprit dit à notre cœur, mais tu es cet homme-là. Tu es concerné par cette affaire-là, par ce péché que ce texte est en train de dénoncer. Ça, c'est le travail de la parole de Dieu, en vue de notre sanctification. Mais la parole de Dieu n'a pas seulement pour fonction de signaler, de révéler le péché, mais elle a pour objectif, pour but de le retrancher dans notre vie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, Jésus dit qu'il est le cep, nous sommes les sarments. Et que pour que le sarment porte du fruit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'émonder, il faut le tailler. Hein? Les viticulteurs, chaque année, eh bien... pied par pied, cep après cep, vont avec leur sécateur et tchac, 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 tchac. Ils taillent, ils retranchent. Mais pourquoi font-ils ça? Ne vont-ils pas abîmer la plante? Non, tout au contraire. Ce travail de taille, d'émondage, va permettre que le fruit devienne abondant et excellent. Et dans notre vie, c'est pareil. Oui. On peut dire que la parole de Dieu, c'est le sécateur dont il se sert pour retrancher. Elle opère, cette parole, une distinction entre le bien et le mal. Et Dieu sait que par les temps qui courent, nous avons besoin de quelque chose et de quelqu'un qui nous dise « ça c'est bien, ça c'est mal ». Parce qu'il y a une confusion extrême entre le bien et le mal aujourd'hui. Ceux qui sont les plus âgés parmi nous pourraient le dire. Autrefois, ça ne veut pas dire que les gens d'autrefois étaient le nec plus ultra. Non, mais même s'ils faisaient le mal, ils savaient que c'était mal. Parce que l'éducation, dans le cadre familial, dans le cadre scolaire, leur avait donné une certaine notion de ce qui était droit, de ce qui était tordu, de ce qui était bien, de ce qui était mal. Mais aujourd'hui, on n'en est même plus là. Aujourd'hui, bien des gens ne savent plus, comme dit l'Écriture, distinguer leur droite de leur gauche. Ça veut dire qu'ils ne savent plus distinguer le mal du bien. Pire, ils appellent mal ce qui est bien, bien ce qui est mal. Alors il faut que la parole de Dieu redresse tout cela, n'est-ce pas ? Elle opère une distinction entre le bien et le mal, le pur et l'impur, le charnel et le spirituel, le saint et le profane. C'est pour ça, mes amis, qu'il est important de lire la parole. Amen. Un petit conseil. Passez plus de temps le nez dans votre Bible que devant l'écran de l'ordinateur et vous en trouverez bien. Même s'il y a des sites chrétiens excellents, mes amis, il faut que la parole de Dieu vous parle à vous personnellement. Et pour ça, il faut l'ouvrir, la lire, la méditer en disant « Seigneur, par ton esprit, éclaire-moi pour que cette parole me pénètre et qu'elle fasse son travail. » La lire, la méditer, l'écouter, venir l'entendre prêcher, puis évidemment, lui obéir et la vivre. Et c'est comme ça qu'elle nous sanctifie, la parole. Quelque part, nous sommes dépendants de cette parole. Écoutez, même si vous retenez que ça de cette prédication de ce matin, la qualité de votre vie spirituelle dépend en grande partie du contact que vous avez avec la parole de Dieu. Si votre contact avec la parole est superficiel, léger, si vous ouvrez la Bible une fois tous les 3 ou 4 matins, il y a bien peu de chances que vous alliez mener une vie chrétienne sérieuse. Par contre, si vous êtes un homme ou une femme de la parole, alors elle va faire un travail en vous et elle vous sanctifie. Le deuxième élément qui nous permet de parvenir à mener une vie sainte, c'est le sang de Jésus. Premier épître de Jean, chapitre 1er, verset 7. Ce verset souvent cité, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Une fois que la parole de Dieu a repéré le péché dans notre vie, a débusqué le mal, l'a démasqué en nous, il doit être, ce péché-là, confessé et abandonné aux pieds du Seigneur, ainsi que nous l'avons entendu ce matin par les dons spirituels. 1 Jean, chapitre 1er, verset 9, si nous confessons nos péchés. Le verset précédent dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons de nous-mêmes, la vérité. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, lorsque tu confesses ton péché, et lorsque tu es décidé à y mettre un terme définitif, alors le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et c'est une purification qui s'opère constamment. Le sang, bien sûr, est une référence au sacrifice de Jésus. L'efficacité du sang de Jésus, du sacrifice de Jésus, qui a subi à notre place le châtiment que nous méritions. Cette efficacité-là qui réside dans le pouvoir du sang de l'agneau est toujours à notre disposition. Alléluia. Attention, même s'il est aisé, d'une certaine manière, de recevoir le pardon du Seigneur, comme disait un frère qui est auprès du Seigneur, le sang de Jésus n'est pas pour autant une lessive à bon marché. Lorsque tu te réclames du sang de Jésus, ce n'est pas une expression magique. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. C'est une référence à l'œuvre de la croix, à son agonie, à ses souffrances, à ses blessures, à ce qu'il a dû subir pour moi. N'est-ce pas ? Et c'est dans cet esprit de vénération, d'immense respect, d'humiliation que l'on doit se réclamer du sang de Jésus afin d'être purifié de tout péché aussi souvent que nécessaire et d'être encore sanctifié. La parole, le sang, la croix. Se convertir, ça consiste à croire, à réaliser, tout à coup nos yeux s'ouvrent, on n'y comprenait rien, on ne savait pas trop pourquoi cet homme là-bas Jésus de Nazareth avait été crucifié, on se disait, oh, son affaire a raté. C'était un philosophe, c'était peut-être un prophète. Et ses contemporains n'ont pas su comprendre. Alors l'affaire a tourné court et il a fini, le pauvre malheureux, vraiment misérablement. Et puis lorsque nous nous convertissons, nous comprenons qu'il a fait ça pour nous. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nos péchés. Mais vous savez, non seulement il est mort pour nos péchés, mais la parole de Dieu nous déclare que nous sommes morts avec lui. Ça, c'est peut-être, même sûrement, le secret, si secret il y a, quant à la sanctification. L'Épître aux Romains, chapitre 6, développe abondamment ce thème. Je ne vais pas lire, rassurez-vous, tout le chapitre, mais simplement quelques passages. Chapitre 6 de l'Épître aux Romains, verset 1er. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et verset 11, ça c'est un verset capital. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Ce matin, vous êtes à la fois mort et ressuscité. Voyez, il y a une identification avec la personne et l'œuvre de Christ. C'est ce que représente symboliquement le baptême. Attention, simplement symboliquement. Le baptême n'agit pas d'une manière magique. C'est un symbole extérieur d'une réalité qui doit être vécue intérieurement. Lorsque je suis plongé dans le bain baptismal, Seigneur, je meurs à mon passé. Et lorsque j'en sors, je ressuscite spirituellement encore. Et je commence une vie nouvelle. Et l'apôtre Paul nous dit, mais regardez-vous, considérez-vous, croyez que vous êtes mort et ressuscité avec Christ. Ça n'est pas quelque chose qui est à faire, c'est quelque chose qui est déjà fait. Alléluia. Mon frère, ma soeur, mon ami, quand Christ est mort, tu es mort avec lui. Tout ce qu'il y a de mauvais en toi, en moi, toute cette turpitude de la chair, tout ça, c'est sur la croix. Ne vous arrive-t-il pas parfois de vous prendre vous-même en défaut, disant, Seigneur, mais c'est pas possible que de telles choses encore soient dans ma tête, dans mon cœur ou dans ma chair, Seigneur. Bien, tout cela est mort au calvaire. Je suis mort avec Christ. Regardez-vous, considérez-vous comme étant mort avec Christ et ressuscité en lui. Oui, tu es capable, ou plutôt, Dieu est capable de te donner, de vaincre les tendances mauvaises de ta nature charnelle, d'en sortir une bonne fois pour toutes. Alléluia! Parce que tu es mort avec lui. Il ne faut pas s'excuser facilement en disant « Que voulez-vous ? C'est ma nature !» Vous savez, parfois des gens comme ça, ils explosent de colère, ils ne sont pas méchants pour autant. Mais de temps en temps, ça les prend et ils pètent un plomb. Hein. Et après, ils sont tout confus, ils disent « Faut m'excuser, c'est mon caractère. » Ce n'est pas une excuse. Ton caractère, il est sur la croix. Ta colère, ta violence, ton emportement ou autre chose. Parce qu'il y a des gens qui sont tranquille et calme, mais il y a autre chose dans leur cœur, et Dieu le sait. Tout ça, c'est sur la croix. Crois-le. Et si tu le crois, si tu te regardes, si tu te considères comme étant mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ, ce fait sera rendu puissant dans ta vie en résultat de ta foi. Parce que le juste vivra. Et la foi, ce n'est pas simplement quelque chose qui se manifeste pour saisir le salut, ça doit nous suivre toute la vie. Le juste vivra par sa foi. La parole, le sang, la croix, le Saint-Esprit, voici notre grand allié. Il possède une puissance d'affranchissement. Hein? L'apôtre Paul fait référence du combat intérieur qui était le sien avant sa conversion. Voilà, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. Attention ! Ça, c'était l'attitude, la position qui était la sienne avant qu'il ne rencontre Christ comme son sauveur. Et il en était arrivé à être désespéré, disant, mais misérable que je suis, qui me délivrera ? Et puis la suite nous dit, eh bien, grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie, voilà le Saint-Esprit. La loi de l'esprit de vie, Romains chapitre 8, verset 2, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. Le Saint-Esprit qui a fait de notre corps son temple et sa demeure. Amen. Il possède une puissance de libération intérieure. Une puissance de libération intérieure. C'est lui qui va nous permettre, par la grâce de Dieu, de crucifier les œuvres de la chair. C'est ce que dit l'Épître aux Romains au chapitre 8. Au chapitre 8 et au verset 13, voici ce que dit l'apôtre. Si vous vivez selon la chair, c'est-à-dire si vous vous abandonnez aux tendances mauvaises que vous avez naturellement, vous mourrez. Mais si par l'esprit, il s'agit de l'esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, alors dit qu'il y a un fait qui est accompli. Christ est mort pour moi, moi je suis mort avec lui, ça c'est le fait. Je dois avoir la foi d'y croire, ok. Mais c'est le Saint-Esprit qui va rendre ce fait puissant et agissant dans ton cœur. Si vous vivez selon la chair, vous ne connaissez pas l'Esprit. Vous mourrez de l'action. Être rempli du Saint-Esprit, c'est ça aussi. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement parler en langue. Béni soit Dieu pour le parler en langue. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement exercer les dons spirituels. Béni soit Dieu pour les dons spirituels. Être rempli du Saint-Esprit, se laisser remplir du Saint-Esprit, c'est aussi, n'est-ce pas, eh bien, par l'Esprit de Dieu, être en mesure de crucifier les œuvres de la chair. Alléluia. Soyez remplis de l'Esprit, nous dit l'Épître aux Éphésiens. Et ça, c'est moi qui l'ajoute, mais c'est en correspondance avec ce que nous trouvons dans la parole. Et plus vous serez remplis du Saint-Esprit, plus la plénitude de l'Esprit vous envahira, plus vous recevrez cette capacité de vaincre et de dominer sur les tendances mauvaises de votre nature d'homme. La parole, le sang de Jésus, la croix, le Saint-Esprit. Il y a aussi autre chose, et je terminerai par là. Pour parvenir à la sainteté, Dieu utilise les épreuves et sa correction paternelle. Sa correction paternelle. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, chapitre 1, verset 6, nous parle de l'épreuve de la foi. Et il dira qu'elle est plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu. Pour purifier le métal, l'or, l'argent, pour annoter les scories, pour affiner le métal, pour éliminer du métal les éléments étrangers, les impuretés, il faut que le métal passe par le feu. Eh bien, nous, c'est pareil. Parfois, nous passons par le feu de l'épreuve. Ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Parce que c'est souvent dans l'épreuve que le fond de notre cœur apparaît, non pas au grand jour, mais devant Dieu et devant notre propre conscience. Un verset du psaume dit ceci, « Tu mets à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Et parfois, eh bien, à la faveur de l'épreuve, des choses qui sont enfouies, dissimulées, que nous ne soupçonnions peut-être même pas nous concernant, apparaissent en pleine lumière pour que nous puissions dire, « Seigneur, fais-moi grâce. » L'épreuve est la correction paternelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on élimine la correction. Il ne faut pas, comment ils disent, il ne faut pas heurter sa sensibilité. Il faut qu'il puisse s'épanouir librement. Le pauvre petit, si on lui résistait, Hein, certainement que psychologiquement, ça le chavirerait. Hein. Mais c'est l'inverse qui est vrai. L'Écriture dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant et que la verge de la correction l'en éloignera. C'est écrit. On n'est pas obligé d'utiliser le bâton, mais autre chose. Et Dieu nous corrige. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, il est dit que Dieu nous corrige pour notre bien, Hébreux 12, verset 6, afin que nous participions à sa sainteté. Moi, je bénis Dieu pour certaines fois où Dieu m'a corrigé, où je savais que ce qui m'arrivait, ce n'était pas le diable, ce n'était pas je ne sais pas qui, je n'avais même pas besoin de lui, mais c'était la conséquence de mes inconséquences. Des larmes ont coulé, et en même temps, je sentais la miséricorde du Seigneur. Comme s'il me disait, tu vois, c'est parce que tu es mon enfant que je me sens dans l'obligation d'appliquer à ta vie cette discipline. Seigneur, merci de m'avoir rappelé ce fait. Alors il œuvre comme ça, il œuvre par sa parole, par le sang de Jésus, par la croix de Christ, par le Saint-Esprit, par les épreuves et les corrections paternelles qu'il nous applique. Tout cela, ce sont des moyens de grâce. Amen. Pour nous permettre de mener une vie sainte. Il faut, frères et sœurs, que ce soit votre objectif, que ce soit votre but, que ce soit votre aspiration, et la mienne aussi, que ce soit votre désir, votre aspiration la plus authentique, Seigneur. Je veux mener une vie sainte qui t'honore et qui te glorifie. La question n'est pas de savoir le nombre de bénédictions que je vais recevoir. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne, c'est toujours, allez, la bénédiction qui dégringole. Vous savez, la parole de Dieu dit que la sangsue a deux fils, deux filles. Connaissez, c'est des jumelles. Donne! Et puis donne! Et des fois, avec le Seigneur, c'est comme ça qu'on agit. Allez, donne, Seigneur, bénis-moi. Ici, là-bas, ailleurs, et il le fait. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. C'est l'objectif de la vie chrétienne. Ce n'est pas d'être béni, parce qu'à la fin, c'est béni, oui. Hein. L'objectif de la vie chrétienne, c'est d'honorer, de glorifier Dieu. Et comment l'honorer et le glorifier, si ce n'est en menant une vie sainte. Non pas une vie, comment dire, religieuse dans le mauvais sens du terme. Vous savez, je lisais là, hier, je crois, dans Matthieu 23, Jésus est sévère avec les pharisiens. Pourquoi? Ils leur reprochent leur hypocrisie. Derrière une apparence extrêmement pieuse, austère et tout ce que vous voudrez, légaliste à l'extrême, ils étaient pourris à l'intérieur. Et Jésus leur dit, scribes et pharisiens, hypocrites, et puis il enfonce le clou sur toutes sortes de domaines. Il ne faut pas qu'on soit des pharisiens évangéliques. Hein. Non, c'est au fond du cœur que ça doit se passer. Et Dieu veut agir dans notre cœur. Alléluia. Alors voyez, c'est une bonne nouvelle. Parce que la sanctification, il ne faut pas que ce soit un thème rébarbatique. Il y a des chrétiens, quand ils entendent parler de sainteté, ils mettent la main, la tête dans leur main, ils disent, on va en prendre plein la tête aujourd'hui. C'est pas ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de faire des progrès. Alléluia. Vous le croyez? Pas trop, hein, les amens ne fusent pas de toutes parts. Pourtant, c'était écrit sur mon papier, là. À ce moment-là, le peuple dit un amen retentissant. Non, tant pis. Hein. C'est possible de devenir meilleur. C'est possible que je connaisse la victoire, parce que j'ai mes combats, moi aussi, sur les tendances naturelles mauvaises qui sont en moi. Quelles sont les tendances naturelles qui peuvent se trouver en nous? On va en mentionner quelques-unes. La liste n'est pas close. La convoitise, l'orgueil, la cupidité, la jalousie, la rancune, la violence, les excès, les addictions, la paresse, l'égoïsme. Et puis, trois points de subtention, vous pouvez compléter la liste. Mais le Seigneur, il peut transformer tout ça. Amen. Non seulement il enlève le mal, mais il met à la place le bien. Parce que nous parlions du Saint-Esprit tout à l'heure. Et la Bible dit que le fruit de l'Esprit, le résultat de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est la fidélité, etc., etc. Je dois en avoir oublié peut-être quelques-uns au passage. Vous voyez, il enlève le mal et met de bonnes choses en nous. Hein? Parce que la sainteté, ce n'est pas seulement s'exclure du péché, c'est aussi pratiquer ce qui est bon. Et à la place de ces choses tordues que j'ai mentionnées, là, orgueil, convoitise, jalousie et tout le reste, le Seigneur veut placer la pureté, amen, l'intégrité, l'humilité, la modestie, la fidélité, la tempérance, la miséricorde, le pardon, celui qu'on accorde aux autres, la bonté, la bienveillance, la douceur, la patience, l'amour, etc., etc. Tu peux faire ça en moi, Seigneur. Amen. Tu peux faire ça en moi. Pour que j'y parvienne, tu m'as donné ces excellents moyens de grâce, ces outils, si je puis dire. La parole, le sang de Jésus, la croix de Christ, l'action du Saint-Esprit, les épreuves et les corrections paternelles que tu m'as données. Amen. On prie le Seigneur quelques instants. Sois glorieux.